Place Info.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les débats de l'Écho sur France Info en partenariat avec le Cercle des économistes. Chaque dimanche, débat autour des sujets qui ont ou vont marquer l'actualité économique et sociale. Avec nous ce soir, Élise Huillery, professeure à l'Université Paris-Dauphine, membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Et puis Christian de Boissieux, vice-président du Cercle des économistes. Bonsoir à tous les deux. Au programme, bonsoir. Comment sortir de la récession par une croissance verte et puis relocaliser nos industries en France? Oui, mais à quel coût pour les entreprises et puis surtout à quel prix pour l'emploi? Un monde axé sur la sobriété carbone, la lutte contre le réchauffement climatique, l'indépendance agricole. Les partisans d'une transition énergétique espèrent voir tous ces points placés au cœur de la relance économique, mais leurs vœux seront-ils exaucés? Ne risquent-ils pas de se heurter à la tentation du retour au business as usual, c'est-à-dire aux affaires comme d'habitude et comme avant? Pour rappel, lors de la crise de 2008, la relance n'intégrait pas d'impulsion environnementale. Christian de Boissieux, est-ce que le climat sera réellement au cœur de la relance économique une fois passée la pandémie de Covid-19, selon vous?
Bonjour, je pense qu'il sera au cœur, mais qu'il ne sera pas la seule variable à prendre en compte, parce qu'il faut tenir compte au moins de trois éléments dans les plans de relance qui vont être mis en œuvre. La croissance, enfin le retour de la croissance, puisque nous sommes en récession, l'emploi et la réduction du carbone. Alors, quand les mesures prises vont dans la même direction sur ces trois facteurs, il n'y a pas de problème, et il faut vraiment essayer de rattraper les objectifs de CO2, de lutte contre le changement climatique, parce que nous sommes en retard, la France n'est pas du tout en avance, j'allais dire malgré la COP21 de Paris qui avait vu la France en flèche. Donc le contexte général est d'ailleurs pas évident, parce qu'avec la baisse des prix du pétrole, il y a une tendance à utiliser, en quelque sorte, réutiliser des énergies fossiles et à pas développer des énergies peu carbonées, mais il faudra lutter contre cette tendance, et je pense, je termine en disant que les États ont un rôle très important à jouer. L'État qui a déjà lancé un plan de 110 milliards d'euros et qui doit conditionner une partie de son aide à les objectifs climatiques, et puis au niveau européen, il y a le pacte vert qui avait été adopté bien avant la crise du corona et qui doit également aller dans la même direction.
Alors, Élise Huillery, investir pour une croissance verte et durable, n'est-ce pas finalement une tendance naturelle, hein, sans jeu de mots, qui oserait dire le contraire aujourd'hui? Et puis, il y a un paradoxe peut-être aussi, la crise économique ne facilite pas la tâche.
Oui, en effet, je pense que si la volonté existait et commençait à se mettre en œuvre de faire des investissements verts comme le Green Deal européen le démontrait, en réalité, la crise du coronavirus va jouer avec des puissants vents contraires. Il va falloir redoubler de cette volonté, il va falloir l'augmenter, parce que va y avoir au contraire des tensions. En fait, il y a un dilemme entre une aide à court terme qui voudrait sauver l'existant. Et on voit bien que ça va être nécessaire pour des tas de PME, pour des tas d'agriculteurs, mais aussi des grosses entreprises comme Air France. Donc il va falloir injecter des aides qui visent à sauver l'existant. Mais ça va pas aller dans le sens des investissements verts qu'il aurait fallu faire. Et donc il y a un dilemme entre sauver l'existant d'un côté et puis les investissements de long terme, ou de moyen terme en tout cas, qui visent à changer l'appareil productif en profondeur pour lui permettre d'utiliser des énergies qui soient des énergies moins émettrices de gaz à effet de serre. Et ces deux objectifs vont rentrer un peu en conflit, en concurrence par rapport à des ressources rares. Donc je pense que, contrairement à ce qu'on entend, la crise actuelle rajoute une difficulté dans l'objectif de diminution des gaz à effet de serre plus qu'elle ne la serre.
Alors, Christian de Boissieux, quelles seraient, à vos yeux, les mesures prioritaires? Il faut jouer sur l'offre, la demande. Comment ça va se passer? Quelles sont les décisions les plus urgentes à prendre si on veut investir dans le vert et dans la lutte contre le changement climatique?
D'abord, c'est-à-dire qu'il faut conditionner l'aide à des objectifs écologiques. Et ma collègue parlait d'Air France, ça me paraît clair. Il y a beaucoup d'argent public qui est injecté en ce moment dans d'autres compagnies nationales. Il faut qu'il y ait derrière des contraintes relativement fortes, y compris en matière de carbone, d'émissions de gaz à effet de serre.
D'accord, mais sur les mesures en tant que telles,
Je comprends bien les mesures, j'y viens. Je pense qu'il y a un certain nombre d'axes à développer. La rénovation thermique des bâtiments, et en particulier de l'habitat, est une question centrale. Il faut mettre de l'argent dans cette affaire par des incitations, j'allais dire des incitations fiscales, au point où on en est de l'addition à régler au bout du compte, j'imagine que ça coûtera pas énormément. Et l'avantage de cette mesure qui concerne le bâtiment, le BTP, la construction, c'est que l'impact sur notre solde, notre balance commerciale est faible. Il y a un deuxième secteur, c'est tout ce qui concerne le développement de la voiture électrique et également de la construction de batteries sur les territoires français, ou en tout cas sur le territoire européen. Là également, ça passe par des incitations, hein. Faut pas se tromper, ça va peut-être pas se faire naturellement. Il y a également, troisième axe, je pense que développer la consommation de proximité en liaison avec les collectivités locales via ce qu'on appelle des chèques verts, ça peut être une direction, parce que la crise actuelle remet au premier plan la notion de proximité. Voilà. Alors, quelques axes, mais il faut à la fois jouer sur l'offre et la demande, comme vous l'avez dit.
Élise Huillery, comment on finance tout ça? Après les Corona Bonds, on va inventer, d'ailleurs ils existent déjà un peu, c'est les Green Bonds, les obligations vertes au niveau européen, pourquoi pas?
Oui, bien sûr. Je pense que là, il faut vraiment jouer sur la capacité d'endettement de l'Europe. Il faut jouer sur cette capacité d'endettement parce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont extrêmement bas, voire négatifs. Et donc, effectivement, la question n'est pas de limiter l'endettement, mais au contraire de y aller sans aucun tabou, parce que on peut faire des dettes à très 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 long terme qui vont pas peser grandement sur les ressources budgétaire, parce que le service de la dette va pas être augmenté énormément, étant donné que ces taux sont très très bas. Ce serait évidemment beaucoup plus raisonnable de le faire au niveau européen en mutualisant les taux d'intérêt. Il s'agit pas de rembourser la dette des autres, mais il s'agit d'avoir un taux d'intérêt qui soit commun au niveau européen, donc une solidarité européenne sur le taux d'intérêt, ce qui est pas évident, parce que les pays du Sud ont intérêt à avoir ce taux d'intérêt commun, alors que les pays du Nord, notamment l'Allemagne, a intérêt au contraire à ne pas... pour elle, ce serait un taux d'intérêt un peu supérieur pour avoir toute seule. Donc, il va y avoir des tensions entre pays européens qui n'ont pas tous intérêt à mutualiser ce taux d'intérêt. Mais effectivement, là, la solution, c'est l'endettement à un niveau européen pour avoir un taux d'intérêt qui soit stable, avec une BCE très très rassurante pour pouvoir éviter une crise de la dette. Donc voilà, ça c'est la solution qui fait consensus au sein des économistes pour faire face à la fois aux besoins immédiats de ressources pour aider toute l'offre, toutes les entreprises et les ménages face à la crise, mais aussi pour l'endettement vert, une relance verte.
Donc,
à plus long terme.
Donc, point de salut sans une volonté commune européenne. Bien sûr, nous avons bien compris. Nous nous arrêtons là pour cette première partie des débats de l'écho. Autre question à suivre dans une minute. Relocaliser en France notre industrie, oui, mais à quel prix pour les entreprises et à quel prix pour l'emploi? À tout de suite.
Et ce sera bien sûr toujours avec vous, Emmanuel Cuny, et vous invitez la suite des débats de l'écho. Dans un instant, le temps du fil info, 17h50. On retrouve Armand Perrault-Logan.
Le retour à l'école à partir du 11 mai n'est pas réaliste, c'est ce qu'écrivent 316 maires d'Île-de-France, lettre adressée à Emmanuel Macron. Ces élus locaux demandent au président de la République de reporter la réouverture des écoles à une date ultérieure au 11 mai. Olivier Véran, lui, met en garde les Français. Le déconfinement prévu à partir du 11 mai pourrait être repoussé si le nombre de malades est trop élevé. Le 11 mai reste notre objectif et nous allons l'atteindre, assure de son côté le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Alors que les indicateurs sont encourageants, il y a chaque jour moins de patients en réanimation, 3827 actuellement. Les élections municipales pourraient bien avoir lieu à l'automne dans les 4800 communes qui n'ont pas élu leur conseil municipal au complet en mars dernier. Le gouvernement envisage de réorganiser le premier tour le 27 septembre et le second tour le 4 octobre. Un projet de loi est en cours d'écriture, mais officiellement le gouvernement n'abandonne pas l'idée d'organiser le second tour fin juin. L'Europe commence à se déconfiner avec de nouveaux assouplissements. En Italie, les parcs rouvrent demain. Les visites familiales pourront reprendre tout en gardant les distances physiques. En Allemagne, des écoles vont rouvrir aussi à partir de demain. Réouverture également des magasins demain en Autriche et dans plusieurs pays scandinaves. Et puis les dirigeants américains persistent et signent. Ils estiment que le coronavirus vient dans l'aube d'un laboratoire chinois à Wuhan. Il existe un nombre significatif de preuves, vient de déclarer Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine. Mais les États-Unis n'ont pour l'instant pas publié de preuves.
France Info. Et tout est plus clair. Les débats de l'écho avec Serre France, conseil expertise comptable pour la performance des créateurs et chefs d'entreprise. Rendez-vous sur serrefrance.fr.
Deuxième partie des débats de l'écho sur France Info en partenariat avec le Cercle des économistes et nos deux invités ce soir, Christian de Boissieux, vice-président du Cercle des économistes, et Élise Huillery, professeure à l'Université Paris-Dauphine, membre du Conseil d'analyse économique placé auprès du Premier ministre. Le visage de l'industrie française sera-t-il différent après la crise provoquée par la pandémie de Covid-19? Parmi les sujets sur la table, il y a celui des relocalisations. Faire revenir sur le sol français nos industries stratégiques, pharmacie, médicaments, informatique, automobile, télécom, services, des pans entiers de notre industrie sont aujourd'hui en dehors de nos frontières. Alors le débat est tout aussi économique que politique, technologique, budgétaire et fiscal. Sur les deux plans, il en va de notre souveraineté et de l'emploi. Élise Huillery, question toute simple, finalement, faut-il relocaliser notre industrie à l'aune de la crise que la France traverse aujourd'hui ?
Alors, la réponse simple, c'est oui, mais pour deux raisons assez différentes, l'une liée à la crise et l'autre qui n'est pas du tout liée à la crise. La première raison de relocaliser liée à la crise, c'est effectivement qu'on s'est aperçu de la fragilité en termes sanitaires et de sécurité sanitaire et de sécurité du coup alimentaire, enfin ce qui vraiment relève de la survie des enjeux vitaux de notre société. Et là, on se rend bien compte qu'effectivement, on est allé trop loin dans les délocalisations et que sur ces secteurs stratégiques qui mettent en jeu la vie des citoyens, il est totalement indiscutable qu'il faut relocaliser ces secteurs en France. On ne doit pas dépendre d'autres pays pour pouvoir.
Mais ce n'est pas le cas de tous les secteurs, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà. Mais il y a une autre raison de relocaliser, et celle-là, même si on peut se réjouir d'un mouvement global de relocalisation, en réalité, la raison est complètement différente et pas liée à la crise. C'est la lutte contre le changement climatique qui oblige à penser une relocalisation beaucoup plus globale de tous les biens, pas seulement ceux qui sont vitaux, mais de tous les biens. Et vous avez évoqué l'automobile, vous avez évoqué des industries technologiques ou le textile, etc. En réalité, il n'y a pas d'enjeu vital à relocaliser ces industries. On survivrait même si on devait se passer de jeans pendant 3 mois. Mais il faut relocaliser ces biens pour des enjeux climatiques, oui. de réduction des distances, de réduction du transport et donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce sont deux raisons complètement décorrélées l'une de l'autre, mais qui toutes les deux vont dans le même sens.
Alors relocaliser, mais quoi, Christian de Boissieux, exactement, quel est votre point de vue sur la question? On relocalise tout en même temps ou on commence par des secteurs prioritaires?
Bon, il faut revoir la liste des secteurs prioritaires et clairement, par exemple, aujourd'hui, il y a non seulement le médicament, la filière santé, mais la biologie, c'est pas partie des secteurs prioritaires à la lumière de la crise. Mon sentiment, c'est qu'il faut pas, on va pas détricoter la mondialisation. Il faut en corriger les défauts tout en conservant certains des avantages de la division internationale du travail. Donc, on va réintégrer chez nous un certain nombre une partie de certaines filières. Je pense également qu'il faut poser le problème de la relocalisation au niveau européen. Je vous donne deux exemples. Je parlais tout à l'heure des batteries pour voitures électriques. Clairement, c'est pas en France qu'il faut le faire uniquement. Il faut faire ça dans le franco-allemand ou plus largement au niveau européen. Et ce qui concerne une filière très importante, tout ce qui est télécom, médias, etc., il faut qu'on arrive, par une stratégie industrielle européenne, à mettre en place des sortes de GAFA européennes. Donc, retour vers le pays sur un certain nombre de sujets qu'on veut mieux contrôler à travers des objectifs de souveraineté nationale, certainement, mais ne pas oublier l'Europe, l'étage européen dans cette affaire.
Donc, le médicament, la santé en priorité avant la voiture et l'informatique. Élise Huillery, cette souveraineté a un prix et un coût. Est-ce qu'on est prêt, en France, aujourd'hui, à l'assumer, que ce soit les entreprises, parce que ça coûtera en investissement, et l'État, qui a des finances exsangues aujourd'hui?
Oui, c'est ça. Et ça va me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Christian Dubois. C'est qu'effectivement, qu'est-ce qui a guidé cette mondialisation? On est allé chercher très, très loin des produits. C'est effectivement la baisse, la minimisation des coûts. Donc, l'idée de base, et c'est pour ça que depuis 50 ans, on était dans un monde de globalisation de plus en plus intense, parce qu'on était dans cette recherche de minimisation des coûts où il fallait produire très, très loin pour produire de moins en moins cher. Un leurre dans ce coût qui sont faibles, le leurre étant que en réalité le coût de la main d'œuvre est effectivement très peu cher, le coût du transport n'était pas non plus excessif, mais en fait il y avait un coût écologique qui oui. n'était pas du tout pris en compte, qui n'est pas du tout pris en compte. Et en fait, si on ajoute ce coût écologique au coût de fabrication, au coût de transport, en fait la réalité du coût de ces biens qui sont produits à très très grande distance est bien supérieure à ce que l'on paye aujourd'hui.
Donc, c'est tout le paradoxe,
quand on dit
finalement
qu'il va falloir payer le coût, on croit que le coût est pas important, mais parce qu'en fait on n'intègre pas l'ensemble du coût. Oui. Et je parle du coût écologique.
Alors cela dit,
donc,
cela
en fait,
dit, Christian Dubois-Sieux,
en instaurant une taxe carbone généralisée, pardon.
Allez-y sur la taxe carbone.
Oui, oui, non, je disais qu'en fait, la façon dont on va naturellement recentrer la production plus localement, c'est effectivement d'instaurer une taxe carbone généralisée où chaque produit serait vendu à son coût réel, c'est-à-dire le coût qui incorpore le coût écologique.
Christian Dubois-Sieux, faire revenir les industries stratégiques en France et en Europe, ça aura un coût, notamment sur l'emploi, parce que produire en France, ça coûtera plus cher de toute façon, en termes de charges sociales, en termes même de coûts sur les coûts de production.
Difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre et de gagner sur tous les tableaux à la fois. C'est-à-dire que si le fait de relocaliser en France ou au niveau européen un certain nombre d'éléments qui considérés comme stratégiques dans le cadre de ces nouvelles stratégies industrielles qui se dessinent. Bon, il y aura sans doute à court terme des phénomènes de hausse de prix dans certains secteurs, peut-être un impact négatif sur l'emploi, mais ça c'est du court terme. À long terme, les choses seront, à mon avis, moins défavorables. Et surtout, il faudra arbitrer entre ce qu'on risque de perdre, ou par exemple des prix plus élevés, et puis ce qu'on va gagner en termes de contrôle de ce qui nous arrive et de souveraineté au niveau national et au niveau européen.
Il y a des arbitrages. Merci beaucoup. Avec probablement l'impératif pour l'État de baisser les charges sur le travail et sur la production. Merci Élise Huillery, professeure à l'Université Paris-Dauphine, Christian Dubois-Sieux, vice-président du Cercle des économistes.